J'ai étudié ce que disent la Torah,
le Talmud, le Shulchan Aruch et notre nouvelle Bible Internet. Et j'ai été surpris de la pauvreté des données concernant spécifiquement cette fête. On pourrait presque parler de désert de mitzvot, de commandement. On peut laisser la lumière, ça, je pense que je sais pas, c'est bien bon. Il va m'être donc relativement facile, dans le temps imparti, de vous parler de cette fête et des 10 commandements ou 10 paroles qui nous ont été transmises à cette occasion. Après avoir rapporté ce que Dieu exige de nous, après avoir rapporté ce que Dieu exige de nous pendant les 7 fêtes sur la Torah, nous évoquerons les coutumes qui s'y sont attachées, nous dirons quelques mots de la période qui précède Shavuot, le Homer, et nous terminerons par l'événement capital qui caractérise cette fête, à savoir le don des tables de la loi. Et ce soir, je vais vous lancer un défi en vous proposant un tour de magie dont je vous donnerai les clés. Je vais en effet essayer de vous faire respecter les 10 commandements sans exercer de pression sur vous et sans demander le moindre effort de votre part. D'où le titre que j'ai donné à mon exposé, « Les 10 paroles sans peine ». Pour compléter la collection des assimiles qui a commencé il y a au moins 50 ans, puisque j'ai commencé à apprendre l'anglais en essayant de mémoriser le classique « My tailor is rich ». Mais revenons d'abord à la fête de Shavuot, ou fête des semaines. En effet, Sheva en hébreu veut dire 7, Shavua signifie « semaine ». Et dans la Torah, cette fête est appelée aussi fête des prémices ou fête de la récolte du froment. Et il faudra présenter à l'Éternel l'offrande nouvelle à l'issue de 7 semaines de récolte. Et les dons devront être à proportion de ce que notre main pourra offrir et du degré de bénédiction que Dieu nous aura donné. C'est un peu comme un impôt sur le revenu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est à peu près la même époque. Pendant cette convocation sainte, on ne fera aucune œuvre servile et il faudra se rendre, comme pour les 2 autres pèlerinages annuels que sont Pessah et Sukkot, à l'endroit que Dieu aura choisi pour nous rencontrer. Et on ne doit pas s'y présenter les mains vides. Voilà tout ce que dit le texte. Dans la pratique, nous avons l'habitude, à Shavuot, de décorer la maison et la synagogue de plantes et de fleurs, car en effet, on dit que le mont Sinaï s'est recouvert de verdure à cette occasion. On a également l'habitude de consommer des laitages. Pourquoi ? Eh bien, parmi les différentes raisons que j'ai pu lire, les 3 raisons qui m'ont paru les plus intéressantes sont les suivantes. Lors du don de la Torah au mont Sinaï, le peuple juif a reçu les instructions relatives à l'abattage des animaux et à la préparation de la viande pour la consommation. Jusque-là, la viande et les ustensiles ne répondaient pas à ces critères. En attendant, donc, la seule possibilité qui s'offrait à eux a été de consommer des laitages qui ne nécessitaient pas de précautions particulières. De plus, la révélation de la Torah ayant eu lieu un Shabbat, ils ne pouvaient pas abattre d'animaux ni cachériser leurs ustensiles. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de manger des laitages. La deuxième raison, c'est que la Torah est comparée au lait. Dans le Cantique des Cantiques, il est dit « Elle coule sur la langue comme le lait et le miel ». Et de même que le lait peut subvenir totalement aux besoins du nourrisson, la Torah procure toute la nourriture spirituelle nécessaire à l'âme humaine. Certains assaisonnent également les plats avec du safran et qui a de la couleur du miel. Donc ça rappelle le lait et le miel comme ça. Enfin, la valeur numérique du lait, chalav, est de 40. Cela rappelle les 40 jours que Moïse a passé sur le mont Sinaï pour recevoir toutes les instructions concernant la Torah, ainsi que les 40 jours supplémentaires à prier pour obtenir le pardon de la faute du veau d'or. Pour célébrer la Torah, certains confectionnent également de longs pains dont les extrémités se divisent en deux, comme les rouleaux de la Torah, et ils mangent également des crêplas, qui sont des sortes de raviolis triangulaires. Les trois côtés rappellent les trois parties de la Bible ou Tanakh, c'est-à-dire la Torah, les prophètes et les hagiographes. Et également les trois campements du peuple, les Kohen, les Lévis et Israël. Les hommes ont l'habitude de faire une veillée d'études et de lire soit le Talmud, soit le Tikkun, qui veut dire réparation. C'est un livre qui a été écrit par le Rav Arizal, car c'est en ce jour que Dieu nous a donné, pour la première fois plutôt, les tables de la loi écrites par Moïse. En fait, non, ce n'est pas ce jour-là. En fait, le deuxième table de la loi ont été données plutôt au moment de Kippour, je crois. Et les premières tables de la loi ont été données à Shavuot. En fait, il y a eu une période de 2 mois à peu près entre la remise des premières et deuxièmes tables de la loi. Et ces premières tables de la loi avaient été brisées par Moïse à la suite de la faute du veau d'or. C'est ça. L'après-midi de la fête, nous lisons le livre de Ruth. Cette jeune Moabite, après avoir perdu son père et ses 2 frères, insiste pour rester auprès de sa pauvre mère Naomi, qui lui demande de la laisser vivre seule sa souffrance, et elle lui déclare « N'insiste pas auprès de moi pour que je te laisse et m'en retourne de toi, car où tu iras, j'irai. » Où tu demeureras, je veux demeurer. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Cette phrase, reprise par Sheila dans sa chanson Les Rois Mages, illustre à merveille le sens de Shavuot. C'est une fête de renforcement des liens personnels, interpersonnels, notamment des couples. Je te suivrai où tu agirais, fidèle comme une ombre jusqu'à destination, disait Sheila. Intergénérationnel également, comme c'est le cas de Ruth et de sa mère Naomi. Intercommunautaire, comme c'est le cas pour nous ce soir. Et des liens de transcendance avec Dieu, donc un renforcement des liens. Il se matérialise par un échange de cadeaux. Nous lui offrons ses prémices et lui nous offre sa Torah. Chez les chrétiens, la Torah semble, je dis bien semble parce que je ne connais rien du tout en matière de liturgie chrétienne, mais il m'a semblé que la Torah était remplacée par le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce au juste que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint ? Le catéchisme catholique, selon Wikipédia, c'est ma seule source à laquelle je peux me référer, le définit comme l'interprétation de l'écriture. À ma grande surprise, il donne 4 niveaux d'interprétation de l'écriture sainte, qui ne sont pas sans rappeler ceux décrits dans le Talmud. Il y a le sens littéral, que chez nous on appelle le pshat, le sens allégorique, que chez nous on appelle le remez, le sens tropologique, que chez nous on appelle le drash, et le sens anagogique, que chez nous on appelle le sod. Autrement dit, ce cadeau du ciel permet, si j'ai bien compris ce que dit cette source bibliographique, aux chrétiens d'approfondir la connaissance des textes sacrés. Cette fête dure un jour en Israël et deux dans les autres pays, comme dans la fête de Pentecôte, qui a lieu le dimanche et le lundi. Comme la plupart des fêtes juives, Shavuot dure un jour de plus en diaspora, c'est-à-dire en dehors d'Israël, qu'en Israël. Car autant la plupart des juifs étaient, autant où la plupart des juifs étaient exilés à Babylone, quand le nouveau mois était proclamé au temple, on allumait les feux d'une montagne à l'autre et ça se transmettait d'une montagne à l'autre en fait. Jusqu'à Jérusalem, enfin non, plutôt de Jérusalem jusqu'à Babylone, ça se faisait dans le sens centrifuge si on peut dire. Donc on faisait des feux de montagne, et d'une montagne à l'autre, on arrivait à informer jusqu'à Babylone. Et le temps de transmettre ces signaux fait qu'il pouvait y avoir un retard de 24 heures par rapport au signal initial. Et de même avec le décalage horaire, même encore maintenant, on a l'informatique, on a les liaisons qui sont hyper rapides, il y a quand même toujours un décalage horaire entre certains pays, et par exemple en Amérique ou en Australie, on n'est jamais on n'est pas à la même heure à l'entrée de la fête. Pour remédier à ce problème, les communautés de l'exil doublèrent les jours de fête par incertitude. C'est ce qu'on appelle chez nous le Skefa Deyomia, ou jour douteux. Cette année, les fêtes de Shavuot ont eu lieu de mardi soir à jeudi soir dernier. La fête de Shavuot est l'aboutissement de 7 semaines qui la séparent des fêtes de Pessah, de Pâques. On appelle cette période le Omer. Si on décompose le mot Omer, on trouve deux radicaux, Om, qui signifie le peuple, et Mar, qui signifie amertume. La période d'Omer est donc une période d'amertume du peuple. Bien que libéré d'Égypte, après la mort des premiers-nés, puisque Dieu avait épargné les premiers-nés juifs, les juifs ressentaient une certaine souffrance d'une absence de mode d'emploi de cette liberté nouvelle, qui était un peu comparable à celle qu'ont pu éprouver récemment les peuples tunisiens et égyptiens. Ils avaient la liberté, mais il fallait la mettre en œuvre, ce qui n'est pas forcément évident. C'est une des raisons qui fait qu'on ne célèbre pas de mariage pendant cette période, au moins pendant les 33 premiers jours. Et de même, comme lors d'un deuil, on ne se rase pas, on ne se coupe pas les cheveux, on n'écoute pas de musique et on ne porte pas d'habits neufs. Mais en fait, les raisons principales de cette période d'amertume sont les suivantes. Rabbi Akiba, principale figure spirituelle de sa génération, avait 24 000 étudiants. Et ces 24 000 étudiants sont morts d'une mystérieuse épidémie entre Pessah et Shavuot. Et on dit que c'était parce qu'ils s'entre-déchiraient, qu'ils n'avaient pas d'entente entre eux. Et l'épidémie a cessé miraculeusement au 33e jour de l'Omer. On appelle ça chez nous le Lag Baomer, Lag qui veut dire 33. Un de ses disciples, rebelle à l'autorité romaine, s'appelait Rabbi Simon Bar Yochai et il vécut pendant 12 ans dans une grotte où il a rédigé le Zohar et la Kabbale. Et il est mort précisément le Lag Baomer, le jour du 33e jour du Omer. Et il demanda par l'intermédiaire de Rav Isaac Luria qu'on fête l'anniversaire de sa mort dans la joie et entouré de lumière. Et des pèlerinages sont organisés chaque année notamment à Safed, pour célébrer ce qu'on appelle sa Hiloula. Rabbi Akiba croyait également au succès de la révolte de Bar Korba contre les Romains et également au retour des Juifs de tous les coins de la terre dans leur patrie et que sa reconstruction pourrait ramener l'ère messianique. Il espérait la reconstruction du temple. Malheureusement, Bar Korba assassina à tort Rabbi Elazar de l'avoir trahi en révélant aux Romains l'emplacement des entrées secrètes d'une cité fortifiée. Et plus tard, c'est une des dernières raisons, survint à cette époque de l'année un tremblement de terre lors d'un essai de reconstruction du troisième temple en 353. Il y avait donc décidément bien des obstacles à la venue du Messie. Le mot Omer signifie également gerbe en hébreu. Le lendemain du jour, nous avons été libérés d'Égypte, Dieu nous a prescrit de balancer le Omer dans un mouvement horizontal. Balancer, ça veut dire faire ce mouvement-là, de va-et-vient. C'est un mouvement horizontal d'immanence, de générosité envers notre prochain, et de compter le Omer chaque jour pendant 49 jours. C'est sans doute afin de développer progressivement nos sentiments de fraternité et d'amour envers notre prochain, un peu comme si nous offrions chaque jour une nouvelle gerbe d'amour. On pourrait presque parler de limbic building. Alors, en effet, le cerveau limbique, c'est le cerveau du cœur, c'est le cerveau de l'émotionnel. Et on peut parler de limbic building comme on parle de bodybuilding. Et le geste qui aura le plus de valeur et donnera le plus de force à la relation fraternelle est de laisser le coin du champ, de notre champ, à la disposition du pauvre et de l'étranger, afin qu'ils puissent ramasser eux-mêmes les glanes de notre moisson, ce qui leur apportera la fierté d'avoir mérité le fruit de leur travail. Ainsi, Boaz d'abord, qui signifie en lui la force, a recommandé à ses moissonneurs de laisser glaner Ruth entre les gerbes. Ainsi, Ruth a pu avoir la fierté de rapporter une nourriture suffisante et de reconforter sa mère qui avait subi l'amertume de nombreux deuils familiaux sans donner l'impression qu'on lui faisait l'aumône. Sa fidélité indéfectible dans l'espace et dans le temps à sa mère Naomi et au commandement de la Torah, bien qu'elle c'était une femme moabite, a permis de la rapprocher de Boaz, qui va par la suite l'épouser en lui donnant Obed, dont le petit-fils sera le futur roi David. Pendant la période du Homer, nous avons l'habitude de lire chaque semaine à Shabbat un chapitre des Maximes des Pères. Et le chapitre 5 commence ainsi. Le monde a été créé en 10 paroles. Et pourquoi ces 10 paroles? Une seule n'aurait-elle pas suffi? C'est pour rendre plus sévère le châtiment des méchants qui causent la ruine de ce monde créé par 10 paroles et pour augmenter la récompense des justes qui, par leur vertu, maintiennent ce monde qui a coûté 10 paroles au Créateur. En effet, l'événement le plus important de la fête de Shavuot, c'est le don des 10 commandements ou 10 paroles. La plupart d'entre vous les connaissent, mais j'ai essayé d'entreprendre une réflexion personnelle qui vise à faire que vous puissiez accomplir vis-à-vis de moi les 10 commandements, même si vous ne les avez jamais lus ni entendus. Permettez-moi de vous dire comment je dois m'y prendre. Mais auparavant, je voudrais vous préciser que même s'il y a peu de différence, les deux versions des tables de la loi ne sont pas, enfin le texte du moins, n'est pas strictement identique pour les, tous les commandements. Il y a des commandements où c'est, le texte est exactement pareil, il y a des petites différences pour certains des commandements. Et lorsqu'il y aura des différences, je les signalerai dans les diapositives. Le texte de la version du Deutéronome sera écrit en bleu. Hein, donc vous saurez que quand c'est en bleu, c'est la version du Deutéronome, et quand c'est en noir, c'est l'Exode. Alors là, c'est le plus compliqué. C'est un mélange du premier et du quatrième commandement. Donc le premier commandement, il n'est pas compliqué, il dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. » Et bien ce commandement, c'est malgré les apparences, bien un ordre auquel on peut ou non se plier et non une affirmation. Le quatrième commandement, dans sa première version de l'Exode, le prouve. La justification du Shabbat n'est pas fondée sur une égalité sociale comme dans la deuxième mouture, mais sur une imitation du comportement divin, puisqu'il dit « Car j'ai créé le monde en six jours et je me suis reposé le septième jour ». Et cette imitation doit s'appliquer notamment pour le premier commandement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est précisé à la fin du quatrième commandement, là dans sa deuxième version, « Tu te souviendras que tu fus esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir. » Cela ne signifie pas qu'il faut se prendre pour un dieu, mais simplement qu'il faut essayer de faire comme lui, à savoir libérer son prochain de toute servitude, y compris des 10 commandements eux-mêmes. Donc ça, je l'ai répété, mais enfin, si vous l'avez bien lu. Le deuxième commandement, il dit « Il n'y aura pas de Dieu après moi, chez toi, en ma présence. Tu ne te feras pas d'idole sculptée, comme vous le voyez sur la première image, ni toute image, comme vous l'avez sur la deuxième. » Donc, une histoire, une image figée. Ce qui signifie que même si tu dois imiter Dieu, il ne faut pas imposer à ton prochain une idéologie, on pourrait même dire une idole-ogie, faite de nouveaux règlements, figés comme des images, comme des statues, en opposition aux intérêts de notre prochain et à la volonté divine. Il ne faut pas non plus rogner la loi comme le sculpteur, avec des avenants qui donnent un coup de canif, un coup de gouge pour sculpter des valeurs républicaines telles que l'amour et la justice vis-à-vis de son prochain ou de l'étranger, que ce coup de canif vienne d'en haut, le patron, les instances supérieures républicaines, les parents. Dans la Torah, il est dit « en haut dans le ciel ». Qu'elle vienne d'en face, un collègue de travail, un conjoint même, en haut dans le ciel, là c'est en bas sur la terre, ou d'en bas, c'est-à-dire la rue, nos enfants, nos employés si on est patron, ce que la Torah dénomme « dans les eaux plus bas que la terre ». Un exemple pratique pour illustrer comment empêcher notre prochain de devenir une idole. En ne votant pas pour un parti politique qui interdirait, par exemple comme ça a été le cas, de faire l'aumône dans l'espace public, ou en refusant de cautionner des injustices telles qu'une ségrégation raciale, par exemple sous prétexte qu'elles ont été instituées dans le siècle précédent et qu'elles se trouvent entérinées de génération en génération, comme ça a été le cas aux USA ou dans certains pays, et qu'elles sont devenues comme ça une coutume locale, on entérine la dictature de siècle en siècle. Et c'est dans ce cas que la faute des parents est reportée sur les enfants de la troisième ou quatrième génération. Le troisième commandement dit « Tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain ». Si, à l'inverse, quelqu'un, donc là on a vu le cas tout à l'heure, d'un gars qui veut imposer des idoles qui sont contraires à ses intérêts, là on va voir l'inverse, c'est-à-dire quelqu'un agit avec, à notre égard comme Dieu le veut, avec amour, avec justice, en respectant nos choix, notre liberté, à ce moment-là il faut exprimer notre reconnaissance afin qu'il n'ait pas fait ses actions, honorer le don de Dieu par ses actions en vain. Comme nous le disions il y a quelques instants, nous ne devons pas nous présenter devant Dieu les mains vides. Le quatrième commandement, celui du Shabbat. Alors là, j'ai mis donc la première... c'est le premier... Oui, ça, là, c'est la première version. Mais là, en fait, j'aurais dû mettre plutôt la deuxième. Parce qu'en fait, pour le faire pour les autres, celui du Shabbat implique qu'il faut être vigilant avec notre prochain, ne pas lui proposer de venir travailler le Shabbat, voire le dimanche s'il est chrétien, en complément de son activité professionnelle qu'il a déjà, même s'il en a besoin pour arrondir ses fins de mois, car comme tout être humain, il a besoin d'un jour de repos hebdomadaire, indispensable dans la prévention du burn-out. Quand on veut trop forcer, eh ben, la machine casse. Alors c'est là, donc on retrouve, donc là c'est la deuxième version qui rappelle qu'il est une forme sociale, alors que l'autre, on cherchait simplement à imiter le comportement de Dieu. Donc le cinquième commandement, honore ton père et ta mère. En tant que parents, il faut qu'on arrive à éduquer nos enfants afin que l'honneur qu'ils nous rendent soit quelque chose de naturel. Il faut les combler d'amour afin que ce ne soit qu'un juste retour des choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément les gâter, bien au contraire. Il faut leur donner une éducation, des limites, le sens du respect et de la dignité. À ce propos, j'avais entendu un commentaire qui était assez intéressant sur la traduction du mot « honor ». Il dit « c'est un juste poids ». Voilà, « kavod ». Voilà, le juste poids, c'est-à-dire ni trop ni pas assez, quoi. Le sixième, il est court, « ne tue pas ». Afin que notre prochain ne cherche pas à nous tuer, il faut s'arranger par notre attitude à ne pas engendrer de l'agressivité de la part de notre prochain, en usant d'écoute et de diplomatie. Je ne sais pas si ce sera suffisant, mais ça sera déjà pas mal. Le septième, ne fais pas d'adultère. Pour éviter d'être victime d'adultère, nous devons éviter de nous exposer par notre attitude, par nos fréquentations, par notre décence, la sniout, ce qu'on appelle chez nous, à être abordé intimement par des personnes du sexe opposé. Par ailleurs, par notre prévenance, par des paroles agréables, par notre amour pour notre épouse, et notre époux, notre épouse, hein, c'est dans les deux sens, hein, bien sûr, et pour nos enfants, on évite qu'en notre moitié naisse l'envie d'aller voir ailleurs. Le huitième, ne vole pas. Si nous ne voulons pas être victimes de vol, eh bien, il faut nous mettre à l'abri ce qui est précieux pour nous. Et par ailleurs, il faut aussi faire de la tzedaka en veillant à ce que notre prochain ne manque de rien. Il ne faut pas oublier d'abandonner le coin du champ pour le pauvre. Le neuvième commandement dit... Alors là, c'est un petit peu différent dans les deux versions. Ne réponds pas contre ton prochain en faux témoin, dans l'Exode. Et dans la deuxième version, c'est avec un faux témoignage. Alors c'est très subtil la différence qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas apporter ton témoignage si tu n'as pas assisté à un fait. Et si tu as... Alors ça, c'est le faux témoin, puisqu'il n'a pas assisté, donc il n'est pas témoin. Et ne change pas dans ton récit ce que tes yeux ont vu, si c'est le cas. C'est-à-dire qu'on a assisté quelque chose et on va changer la vérité qui a été vue. Donc là, c'est un faux témoignage. Le témoin était bien présent, mais il a raconté quelque chose différent de ce qu'il a vu. Et la meilleure manière de lutter contre les faux témoins et les faux témoignages est de toujours écouter les deux parties en présence. Le dernier enfin, ne convoite pas la femme, et si on veut résumer, les biens immobiliers et mobiliers de ton prochain, pour ne pas susciter l'envie et la jalousie, il faut éviter l'achat et l'exposition aux yeux de tous de biens trop luxueux, par exemple, qui accentueraient le sentiment de disparité sociale chez notre prochain. C'est en essayant de faire en sorte que notre prochain applique les 10 commandements sans le vouloir et en toute liberté qu'on respectera le, au mieux le Saint-Esprit de la Torah que Dieu nous aura donné en ces jours de Shavuot. Je reste à votre disposition pour écouter vos remarques et tenter de répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur cette fête. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite, avec un peu de retard, de bonnes fêtes à tous et à toutes.
Assez clair,
grand récit des 10 commandements, grand récit de Shavuot, de notre fête. Est-ce que vous avez des questions à poser? Et bien sûr, je remercie Patrick de ce beau travail qu'il a fait, parce qu'avec le support, il faut reconnaître que c'est beaucoup plus vivant, c'est plus facile aussi pour nous d'intégrer cela. Moi, j'étais toujours étonnée des deux versions. Oui.
J'étais toujours étonnée des deux versions, parce qu'effectivement, quand on a lu à Shavuot, là, à la synagogue, la version avec la Torah devant nous, et puis la traduction, c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on lit couramment dans les 10 commandements. Alors voilà, Patrick nous l'a expliqué, je crois. Avez-vous des remarques à faire là-dessus, Norbert?
Merci, ce ne sont pas vraiment des remarques, encore qu'il y a une question à la fin. Merci beaucoup pour ce magnifique travail, toujours, tu as l'habitude de nous proposer quelque chose de lumineux ce soir encore. Pour préparer, vous savez que j'ai l'habitude de préparer les réunions et je vais toujours chercher un peu dans les notes que j'indexe lorsque je lis. Et voici ce que j'ai trouvé notamment et qui vient vraiment en résonance avec ce que nous a dit. Alors d'abord le rabbin Guido Cohen qui dit combien le livre de Ruth est très important dans le cadre de cette fête, qui dit notamment de la même manière que le geste d'amour de Boaz et de Boaz, il y a les deux, on entend les deux prononciations chez nos amis juifs aussi, donc le geste d'amour de Boaz est de partager sa terre avec ceux qui en ont besoin, le geste d'amour de Ruth envers Noémie, sa belle-mère, tu as dit sa mère, mais en fait c'est sa belle-mère, et de choisir de, parce qu'en fait Ruth elle était mariée avec un des deux fils de Noémie, et de choisir de partager le fruit de la terre avec cette femme qui avait choisi de revenir sur sa terre natale qu'il avait quittée pour des raisons de disette, de famine. Et puis, souvent je cite Catherine Chalier qui est toujours aussi lumineuse. Catherine Chalier que vous pouvez retrouver sur le site Academ qui donne des conférences toujours très très lumineuses. Dans Catherine Chalier elle dit « Les 50 jours de l'Omer symbolisent ce travail intérieur auquel chacun est convié pour qu'il élargisse son espace intérieur si souvent refermé sur l'étroitesse de ses souffrances. » Et puis, je voudrais vous dire ce que j'ai trouvé sur le site Ma Sortie. Ma Sortie, donc, on connaît bien deux rabbins, le rabbin Rivon Krigier et le rabbin Yeshaya d'Alsace qui est venu nous donner une conférence ici. Donc, les Ma Sortie regrettent que, contrairement à Pessah, la célébration de cette fête soit peu observé dans le monde juif, et ils regrettent parce qu'ils disent que Shavuot constitue une véritable respiration spirituelle. Et par là, je fais un lien, donc là c'est moi qui fais le lien, avec la Pentecôte chrétienne, puisque l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint qu'est-ce que c'est? C'est le souffle spirituel. Et puis une question que j'adresse à mon médecin, puisque Patrick est mon médecin, je me pose la question, je m'étais jamais posé la question avant ce soir, c'est les médecins ont l'habitude de nous dire dites 33. Donc je voulais savoir si c'était pour faire sortir de nous cette amertume qui a pu s'enquister.
Super.
Bravo. J'avais pas pensé, effectivement. D'accord. Ah, j'ai pas la réponse, mais c'est effectivement tout à fait.
Il nous a montré que ce soir le nombre 33 était très corrélé avec la dimension d'amertume. Et quand on va chez le médecin, c'est souvent parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, soit sur le plan physique, soit sur le plan psychique, voire les deux. Il peut y avoir une des raisons de la maladie, de la souffrance, de la douleur, ça peut être de l'amertume. Et je me dis que peut-être c'est une manière, en disant 33, de faire sortir cette
amertume. 33, c'est aussi ce n'est pas la date de le nombre d'années de Jésus.
Jésus, c'est ce que j'allais dire, ouais.
Il est mort à 33 ans, ce qui est dit maintenant.
Même si c'est compté,
chercher. Oui, même. Alors peut-être.
À oui, ce serait plus.
De,
ouais.
De la relation entre christianité. Tu
non, vas-y.
Entre relation entre la Pentecôte chavouette, la Pentecôte juive et la Pentecôte chrétienne, qui tombe effectivement quelques jours après, puisque elle est aussi la Pentecôte chrétienne de 49 jours, 50 jours après la mort de Jésus. Moi, ce que je trouve extraordinaire, les Juifs reçoivent du Mont Sinaï dans des éclairs, dans le feu, les tables de la loi. Il y a quelque chose d'extraordinaire, comme un Esprit Saint, la Shérina, qui vient parler à Moïse et au peuple, puisque le peuple va entendre, même si on dit que ce n'est pas le mot entendre. Mais ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que pour les chrétiens, c'est aussi une question de recevoir l'Esprit Saint sous forme, je crois aussi, n'est-ce pas, de langue de feu, et d'avoir justement cette révélation. Ce sont deux révélations, l'une par les paroles, et qu'ils puissent, tous les apôtres, parler en toute langue, partout, pour diffuser la parole, et comprendre et parler, et diffuser donc la parole de Dieu, bon, la parole de Jésus, et nous la parole de Dieu. Et je trouve que c'est un lien incroyable avec combien d'années, 2000 ans d'écart, non, et les quatre niveaux d'interprétation, et c'est, on va dire qu'il y a à peu près plus de 1000 ans, ou même 1500 ans d'écart. Je trouve ça, mais extraordinaire. Ça, quand j'ai compris cela, moi, ça m'avait beaucoup touchée. Et pourtant, c'est un lien qui n'en est pas un. Et en même temps, c'est quelque chose qui se ressemble. Voilà, le lien de nos traditions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous pensez avoir envie, besoin de poser d'autres questions ou de dire des choses
qu'on... Le câble de la loi a été brisé. Je croyais que c'était une image. Ça a été véritablement...
Non, ça a été... Non, ça a été...
Oui,
en pierre.
Oui, c'était des détails.
Vous me catéchisme, vous voyez la photo.
Mais ça a été une évolution. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant, c'est que au début, le message, donc, parti du Shabbat, on disait bon, bah, si je crois pas en Dieu, donc j'ai pas besoin de faire le Shabbat, puisque on fait le Shabbat parce que Dieu a créé le monde à six jours, et ça repose le système. Donc, celui qui croit pas, il dit bon, bah, il y a pas de raison que je fasse Shabbat, sinon ça n'a aucun sens. Tandis que dans la deuxième version, Dieu a adapté son message pour qu'il soit accessible et compréhensible par tous. Quand on dit tu ne feras pas le Shabbat parce que ton frère et ton esclave ont droit au repos comme toi, ça devient un message social que tout le monde accepte, même celui qui ne croit pas en Dieu. Et c'est ça, je trouve, qui est formidable. Donc, il a compris que la première version ne pouvait pas passer auprès de tous, d'où il a rédigé pour que ça soit plus compréhensible et plus accepté par tous, plus universel.
Les Hébreux ont fait un veau d'or, donc ils sont revenus idolâtres.
Oui, mais pour moi, le veau d'or, il s'explique par le fait que les gens avaient cette liberté, donc ils étaient libres, mais ils ne savaient pas le mode d'emploi. Non. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas comment faire pour. Donc, ils avaient besoin d'un guide, ils ne comprenaient pas, ils avaient besoin d'un roi qui leur explique voilà comment il faut faire. Et comme Moïse est resté trop longtemps avant de revenir, et bien, comme ils étaient trop angoissés par cette attente, et bien, ils ont eu besoin de prendre ce veau d'or pour calmer leur angoisse, un petit peu comme moi je me dis souvent que c'est comme les jeunes, les adolescents qui commencent à avoir l'accès à la maturité, enfin à la puberté, ils se trouvent donc un peu libres des parents, et bien ils se trouvent paumés les premières années de leur puberté parce qu'ils ne savent plus quoi faire, ils ont besoin d'un guide, et c'est pour ça qu'ils vont aller faire des expériences, des trucs un peu mystique pour essayer de trouver un guide qui leur donne le message que les parents parfois ont peut-être ont tardé à leur donner, disons.
Ben, c'est aussi une marque de la faute par excellence entre guillemets, la faute d'impatience.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Ils n'ont pas eu la patience d'attendre. Le retour de Moïse, et on retrouve ça dans initialement le jardin d'Éden.
Exactement, exactement.
Les Adam et Ève n'ont pas eu la patience
d'attendre pour le fruit de la connaissance.
Pour recevoir la connaissance.
Exactement.
Ils se sont emparés, donc on retrouve. Et la faute d'impatience
voilà.
est à l'origine de toutes les autres.
Exactement. Et dans cette faute, on peut inclure la drogue, ça peut inclure l'alcool. Enfin, je pense que tout ce que vivent les jeunes pour faire, parce qu'ils sont perdus, ils ont du mal à trouver des repères, malgré le fait qu'ils soient aptes à agir librement.
Et elle se manifeste là, à ce moment précis, parce que si, contrairement à d'habitude, il n'y a pas beaucoup de questions. Il y a le fait que tu as été très clair, mais il y a aussi la question d'impatience par rapport à ce qui nous attend de côté de la porte.
Vous êtes en disant, est-ce que vous êtes assez patient encore pour attendre ce qu'il y a derrière la porte? Alors je crois que, compte tenu d'ailleurs, peut-être du temps. Il faut que je sois en train de